Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Comme la vie chrétienne est un chemin sur lequel nous avançons, notre invité de ce jour propose la parole de Dieu comme bâton de marche, un bâton de marche très puissant. Avancer dans la vie, relever les défis du quotidien avec la Bible, c'est le dernier ouvrage de Tanguy-Marie Pouliquen, prêtre de la communauté des Béatitudes et professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour Père.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous introduisez votre propos par la promesse d'une vie pleine, riche, neuve, jeune. De quelle vie parlez-vous Père?
D'une régénération permanente. Voilà. Et bien ça c'est la promesse inscrite au cœur de notre foi, la foi vivante de l'Église, la foi chrétienne, le Christ et la résurrection et la vie, il est la lumière et la vie, il est la lumière du monde, il nous promet la vie en abondance et cette promesse, elle trouve son incarnation dans l'incarnation de la parole de Dieu, il est la parole de Dieu en nous, voilà. Donc nous sommes invités à entrer dans cette régénération permanente à partir de ce que nous donne du suc, de la vie, du goût de la parole de Dieu qui nous transmet cette promesse. Et cette promesse, elle est actualisée à la fois, bah, bien sûr, d'abord par la grâce que le Seigneur nous donne de lui-même d'abord, mais par notre disponibilité à la recevoir, à l'intégrer, à l'intérioriser, à la goûter. Et comme bah c'est un printemps, le printemps c'est la fleur, et après il y a le fruit, et ce fruit, bah, il est délicieux. Bah, il faut accueillir cette sève qui monte, accueillir la fleur, et ensuite goûter le fruit, et comme le fruit est abondant, bah, on est heureux de rendre grâce et de le partager.
Cette vie en abondance, cette promesse de vie en abondance dont vous parlez, Père Tanguy-Marie, c'est une vie qui s'acquiert, si on peut dire, dans un cheminement. Ça n'est pas donné d'office.
Oui, c'est une sorte d'imprégnation de plus en plus grande. C'est pas une promesse qui est réalisée de l'extérieur, elle est réalisée de l'intérieur, hein. Comme dit le père de l'Église, Maxime le Confesseur, la foi qui vient de l'écoute, qui vient de l'écoute de la parole, nous donne immédiatement, en plénitude et parfaitement, le Dieu dans lequel on croit. Donc ce n'est pas la réduction d'un Dieu à une idée, on ne fait pas une méditation sur une belle idée, on reçoit, on intériorise une présence, et une présence comme un présent, accueillir au présent la présence de Dieu comme un présent intérieur, à l'intérieur de nous-mêmes. Le Christ ne crée pas, n'instaure pas un royaume temporel, il instaure un royaume spirituel, et ce royaume spirituel, ben, on le reçoit du lieu même de notre esprit, habité par la parole de Dieu et le Christ, et la parole de Dieu qui se communique et qui nous donne la vie.
En quoi cette présence dont vous parlez, la présence du Christ, dans cette parole de Dieu, en quoi est-elle différente de la présence du Christ dans son Eucharistie?
Ben, elle est complémentaire, hein. La parole de Dieu, elle est quasi-sacrement, c'est-à-dire qu'elle est mystère. Sacrement, c'est le terme latin, mystère, c'est le terme grec, qui signifie la communication de la présence. Le sacrement fondamental, c'est le Christ. L'Église est dans le Christ comme le sacrement du salut, c'est-à-dire que l'Église reçoit parfaitement le Christ et le communique dans les sept sacrements, mais aussi dans le sacrement de la parole. Donc tout l'enjeu, c'est à la fois de se centrer sur la source et de recevoir la source. Contenu, contenant, voilà. Nous, on n'est qu'un contenant, on accueille, on n'est pas la source, mais la source nous désaltère magnifiquement, pour autant qu'on la boit dans ce qu'elle nous est donné à boire, et on pourrait dire dans le contenant aussi, dans le verre, dans l'écriture, parce qu'on distingue l'écriture, la Sainte Écriture et la parole. On peut dire la Sainte Écriture, c'est le contenant de la parole. C'est le réceptacle qui, qui, qui habite la parole de Dieu, qui est inspirée du Saint-Esprit, et qui est vérité de salut pour nous, et une vérité de salut, c'est-à-dire que ça nous donne les moyens, la force pour être pleinement en marche vers un chemin de plénitude, avancer dans la vie, le meilleur est devant, le meilleur est à venir.
Toujours, le meilleur
toujours,
est à venir.
Toujours.
Toujours. Vous distinguez la parole de Dieu des saintes écritures?
Voilà, les saintes écritures, la parole de Dieu, elle est révélation, elle révèle, elle rend présent la présence de Dieu, et cette révélation, elle est la concentration de trois dimensions, la dimension des saintes écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, 73 livres, et ensuite la tradition, qui reçoit les saintes écritures dans une capacité de prière, qui a trouvé ses repères, qui a trouvé ses habitudes, ses dispositions, ses sentiments, et dans son actualité, dans le magistère, dans cette parole qui nous dit aujourd'hui, en ce moment, dans tel contexte, il faut plutôt faire attention à ça, et l'ensemble des trois nous donne la révélation, nous permet d'entrer dans une révélation, dans un avènement du Christ en nous, et qui se fait par la mendication principale de la parole de Dieu. Mmh. La parole de Dieu est vie.
Vous, afin de goûter à cette vie en abondance dont vous nous avez parlé au début de cette émission, vous préconisez, frère Tanguy-Marie Pouliquen, de s'appuyer donc justement sur cette parole de Dieu. Pourquoi s'appuyer sur cette parole?
Parce que la parole de Dieu, si le Christ est le chemin, la vérité et la vie, on oublie toujours que le Christ, c'est le Verbe éternel. Il procède, il est engendré éternellement par le Père. Et ce Verbe, qui est la parole du Père, qui est la parole du Dieu, la parole, on peut dire la parole visible du Dieu invisible, c'est le Christ. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet amour éternel entre le Père et le Fils a voulu se rendre présent. Et quand on aime, on se rend présent, on parle. Donc c'est l'incarnation, et après c'est la parole de Dieu. Donc il ne faut pas oublier que le Christ est Messie, il vient annoncer le salut, mais en tant qu'il est, le Verbe éternel, la parole éternelle. Et donc, par son incarnation, la parole éternelle se rend proche de nous, elle se rend proche à l'intérieur de nous. Et quand on a quelqu'un qui est immensément bienveillant à notre égard, et qui est non seulement proche à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, c'est jackpot, quoi.
La parole de Dieu, elle dit Dieu.
Oui,
mais pas seulement.
Elle dit Dieu, mais elle veut dire la présence de Dieu. En linguistique, il faut distinguer entre ce qui est dit, l'écriture, et ce que cela veut dire, ce que cela transmet. Voilà. Et donc il y a un jeu de va-et-vient entre une lecture attentive et pleine de méditation au quotidien de l'évangile du jour principalement, et puis avec un accent particulier pour le dimanche, et en accueillant ce qui est dit, ça nous conduit vers ce que cela veut nous dire. Cela nous emmène quelque part, voyez. Ce cheminement, il est heureux. C'est tout le sens profond de la Lectio Divina que l'Église veut promouvoir pour tout le monde dans l'Église. Cette mendication de la parole, et passer de ce qui est dit à ce que cela veut dire. Fides ex auditu, la foi naît de l'écoute. Et donc il nous faut apprendre d'abord à écouter, à se laisser faire. Il y a toute une pédagogie aussi pratique de lecture amoureuse de la parole de Dieu pour être inamouré en nous. Vous voyez, quand on a une lecture amoureuse de la parole de Dieu, on est inamouré, c'est-à-dire qu'on est aimé, et cela satisfait les plus grandes attentes d'être aimé, et c'est pour ça que ça nous permet de relever les défis du quotidien, parce que quand on est assuré qu'on est aimé, qu'on a une place définitive dans la vie, et même plus dans la vie éternelle, on y va franco.
Ça donne confiance.
Ça donne confiance, ça nous invite à combattre avec les armes victorieuses du combat, c'est-à-dire avec la puissance de la parole.
Vous dites que dans votre livre, Père Tanguy-Marie, que la parole de Dieu révèle le sens de l'existence, et elle déploie tout ce qui est bon en l'homme. Est-ce que vous auriez un exemple pour bien comprendre ça?
Ah ben oui, la bénédiction, la parole de Dieu nous bénit, voilà. Et quand on bénit les mamans, les papas, ils bénissent leurs enfants le soir, l'enfant, il se sent béni. La parole du Christ sur la croix, c'est une parole d'un psaume de bénédiction. Vous voyez, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc on a la parole de Dieu veut nous communiquer sa bonté, et la parole de Dieu nous met en disposition de recevoir sans cesse cette bénédiction. Et plus on manduque, on intériorise cette présence de bénédiction, la vie devient bien bonne. Voilà. Et après, ce qui est bien fait devient un bienfait. Et donc, ce qu'on vit de l'intérieur, comme de manière un peu gustative, de manière un peu, on l'a dit, inamourée, avec des sentiments profonds, on a envie de le vivre de l'extérieur. Et on rentre dans cette dynamique de saint Augustin qui résume toute la vie chrétienne dans deux sens, du supérieur à la grâce, la présence de Dieu au désir, et à l'intérieur, et de l'intérieur à l'extérieur, de l'intérieur au combat, à la vie gagnante du quotidien. Et il faut bien ce mouvement à trois temps, et la parole, elle joue à chaque moment, elle nous permet de recevoir la grâce, elle nous permet de goûter à la grâce dans notre désir, et elle nous donne la niaque pour y aller. Et puis
elle met en mouvement.
Oui, d'être en première ligne dans nos petit défi. Il ne s'agit pas de penser à des choses extraordinaires, il s'agit de marcher. Vous voyez, l'étymologie du évangélique du mot bonheur, c'est marcher. Donc, est heureux celui qui est en marche. La parole de Dieu nous met en marche, nous fait avancer. Et quand on marche, hier j'étais dans les montagnes avec des mamans, dimanche, des mamans pour faire un trek spirituel, plus on avance, plus le paysage change. Mmh. Notre vie, elle change dans un changement positif qui s'élargit à mesure où on va de l'avant. On peut rebondir sur la petite phrase de fétiche du pape François, la vie nous donne toujours ses solutions, l'important c'est d'aller de l'avant. Oui, mmh. Aller de l'avant. On pourrait dire, on veut vulgariser un peu le sens du péché. Le péché, c'est quoi? Alors, pour éviter de rentrer dans des logiques de culpabilité psychologique et autres. Non, le péché, c'est simplement celui qui ne veut pas aller de l'avant. Voilà. Celui qui reste sur place, qui ne croit pas que Dieu va lui donner la force pour bien vivre aujourd'hui et affronter les petits efforts pour se dépasser, pour se transcender. Et c'est quand on se transcende qu'on accueille la transcendance. Oui. Il y a un double mot entre l'action qui nous fait sortir de nous-mêmes, ça nous fait sortir de nous-mêmes sur la réduction de notre vie à nous-mêmes, et ça nous fait ouvrir à l'altérité. Bon, ça c'est un langage philosophique, mais cette altérité fondatrice, elle est d'abord la parole de Dieu, le Verbe éternel. Voilà. Chaque matin, c'est Noël. Chaque matin, nous pouvons nous aussi faire naître le Christ en nous, par sa parole.
Justement par la parole de Dieu.
Oui, notre cœur n'est pas un cercueil, il est un berceau. Et tout l'art de la vie, c'est de transformer notre esprit d'être des cercueils ambulants, avec un défaitisme autoprogrammé, à être un berceau de Noël. Et devant un berceau, tout le monde s'émerveille, les familles se réconcilient, et tout le monde...
Et font des projets aussi,
Envie de faire un effort et envie de satisfaire, d'encourager, de féliciter la maman, le papa, et on apporte des petits cadeaux parce qu'on se sent... frère de ce petit dôme.
Oui. Vous avez évoqué, frère Tanguy-Marie Pouliquen, le dimanche. Dimanche, premier jour de la semaine, c'est quand même une pause dans la semaine. Ça a été le jour où Dieu a achevé sa création. En quoi ce jour du Seigneur vient renouveler l'identité spirituelle de chacun?
Alors, le dimanche, c'est le jour de la résurrection. C'est-à-dire que si tu crois que le Christ est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc ça, c'est la parole de Dieu. Notre foi, c'est de croire que le Christ est ressuscité, c'est-à-dire que tout horizon mortuaire ou mortifère est dépassé par un horizon de vie, et pas simplement un peu, beaucoup, passionnément, mais à la folie, c'est-à-dire que ça nous donne accès à Dieu. Et à Dieu, et ça nous rend fils de Dieu. Le baptême nous rend fils de Dieu. Et quand on est fils de Dieu, ben, on peut devenir frère de tous. Vous voyez, un fils peut être un frère. Un frère est vraiment frère que s'il est d'abord fils. Et donc, vous voyez, l'Église appelle magnifiquement à une fraternité universelle. Et cette fraternité universelle, elle va trouver son véritable creuset, sa véritable racine, son véritable dynamisme dans cet enracinement. Ah oui, je suis frère de toi, ou tu es ma sœur, à la sororité. Aujourd'hui, on parle de fraternité et de sororité pour parler de cette unité qui nous rassemble entre hommes et femmes. Mais cette proximité fraternelle, sororale, elle est possible que si vraiment on est fils. Vous voyez, on n'a jamais vu un frère qui n'est pas d'abord un fils. Mmh. Et le dimanche, c'est le rappel qu'on est des fils. On est des fils de Dieu. Et que dans la foi de la résurrection, dans ce premier jour de la semaine, dans cette victoire de tout défaitisme, ben nous pouvons repartir de l'avant et que chaque semaine soit une semaine de vie nouvelle, une semaine de régénération continue. Alors à petits pas, on est d'accord. Et je pense que le symbole de la marche est très bien. Parce que personne n'avance à grands pas, ça n'existe pas, ou un peu plus grand que les autres, il y en a qui ont des petites jambes, il y en a qui ont des grandes jambes, mais on fait tous des pas, je dirais, d'un mètre, pas plus. Donc il suffit de marcher, il faut marcher, et on marche en la présence de celui qui marche à côté de nous, je suis le chemin, la vérité et la vie, donc le Christ à la fois devant nous, mais parce que le Christ d'abord, en nous. Et ça, c'est le travail de la parole.
Et quand vous dites qu'on marche, on avance, le dimanche est aussi ce temps de pause. Et vous évoquiez une marche en montagne. Il y a aussi ce temps d'arrêt où on peut contempler le paysage, reprendre des forces.
Mmh. Alors en montagne, on marche pas mal quand même. Alors on se repose. En plus, là, il faisait plutôt frisqué, là, le dimanche, en montagne. Oui, c'est tout le sens du Shabbat, oui, de la noblesse du Shabbat, c'est-à-dire Dieu crée et Dieu bénit après sa création. Mais il nous faut recevoir cette bénédiction. Oui. Plus on rentre dans la bénédiction de Dieu, plus on habite que c'est Dieu qui est premier, c'est pas nous qui prions Dieu d'abord, c'est Dieu qui prie en nous. Et donc nous devons comme honorer par une action de grâce, vous voyez, Eucharistie ça veut dire action de grâce, c'est pas simplement la mendication de l'hostie consacrée, c'est d'abord la réponse personnelle et communautaire à une œuvre de Dieu antécédente, et c'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui se donne, c'est lui qui habite en nous, et cela est source de joie, de dilatation, et après, bon, bah, après il faut y aller, il faut y aller avec humilité, c'est-à-dire si on reprend par exemple François de Sales, si tu sais pas d'où tu pars, tu n'iras nulle part. Il y a beaucoup de gens, ils veulent aller de l'avant, mais pas à partir de là où ils partent, c'est-à-dire pas à partir de la réalité de leur force, mais aussi de leur vie,
tout simplement.
De leur vie, de leurs limites aussi, de leur misère, et tout ça, ben. Notre point de départ, il faut l'offrir au Seigneur, et lui sera un très bon cuisinier avec toutes les aliments qu'on va lui donner. Mais si on n'est pas dans le réel de là où on part, et en fait d'où on part,
on
part d'un cœur pauvre. Nous, on veut Dieu. Seul Dieu donne Dieu. Qui suis-je pour prendre Dieu ? Ben non, ça c'est du volontarisme moraliste, pélagien, ce qu'on veut. Non, seul Dieu donne Dieu, donc il faut que je rentre dans cette pauvreté de cœur où je dis, Seigneur, j'y arriverai pas sans toi. Et donc une petite mort à nous-mêmes, la parole de Dieu nous aide à d'abord accueillir, donc pas à nous affirmer, mais à nous laisser faire, de se laisser faire par Dieu, et une vie graciée bah, devient une vie gracieuse. Hein, et puis le meilleur est là.
Et le meilleur est là. Pour terminer sur le dimanche, vous écrivez qu'il est un jour privilégié pour s'ouvrir ensemble à la parole de Dieu. Quel est exactement le sens de cette dimension communautaire ?
Alors la dimension communautaire, elle est double, elle est à la fois spirituelle et sociale. elle est spirituelle parce que c'est l'Église est un peuple sacerdotal, et du point de vue, je dirais, des laïcs, par leur baptême, c'est d'offrir le sacrifice spirituel de leur action de grâce. C'est ça, la messe. La messe, je m'offre moi-même dans la racine de mon être, qui en est là où il en est.
Bien, parfois, avec cette pauvreté, comme vous disiez.
Avec cette pauvreté évoquée, mais en même temps avec cette reconnaissance que ma vie m'est donnée, je n'y suis pour rien, je n'ai pas choisi même de vivre, j'ai la terre, elle tourne toute seule, sans effort, je respire, et j'ai pas, et je suis environné d'une bénédiction et d'une surabondance liée à la création, et cette création me renvoie au Créateur, mais encore plus loin, le Créateur, en Jésus, il est le recréateur, voilà. Il nous recrée, c'est-à-dire qu'il nous réordonne au meilleur, au mystère à la fois de cette bénédiction, toute notre dignité, et ça, ensemble, ben, à ce moment-là, on peut devenir des frères et sœurs bienveillants les uns pour les autres, parce que tu es béni, je suis béni, tu es digne, je suis digne, magnifique, parce que je suis un être créé par le Dieu créateur, mais plus encore, je suis recréé par le Christ, qui me donne, qui me réordonne, qui me réajuste, qui réajuste mon désir, mon agir vers ce qu'il y a de meilleur. Et comme on ne se sauve pas seul, personne ne se sauvera seul, on a besoin les uns des autres. Ça, c'est la dimension spirituelle. Et après, la dimension sociale. C'est-à-dire que nous sommes envoyés comme en mission. D'abord, c'est la joie de discuter après la messe ensemble, et ensuite d'être envoyés pour redonner ce que l'on a reçu gratuitement, de le redonner gratuitement dans des œuvres sociales, dans une fraternité qu'on appellera inclusive, c'est-à-dire qui sort de l'entre-soi, kato-kato, et qui va, s'ouvrir aux personnes qui sont plus fragiles, qui sont qu'ont besoin d'aide, non pas de manière condescendante, mais de manière gratuite, voilà.
Charitable. Père Tanguy-Marie Pouliquen, je vous propose de nous arrêter quelques instants. Nous écoutons la parole de Dieu, composée par le groupe « Fais briller ta lumière ».
Ne dis jamais que tu ne sais pas. Ne dis jamais que tu ne crois pas. Ne dis jamais que tu ne comprends pas. Ne dis jamais que tu ne le sens pas. La parole de Dieu est vivante et puissante. Oui, la parole de Dieu s'adresse à nous ensemble. La parole.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
De retour avec le père Tanguy Marie Pouliquen, prêtre de la communauté des Béatitudes et auteur de « Avancer dans la vie, relever les défis du quotidien avec la Bible ». La Bible aide notamment à prendre les bonnes décisions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce processus, si on peut dire ?
Oui, c'est un processus dynamique. Hein. Déjà, on l'a dit, la foi naît de l'écoute. Le Christ est la lumière du monde, donc une conscience éclairée par ce qu'il y a de plus incandescent va ajuster notre capacité à prendre des bonnes décisions et à être dans le bon jugement. Hein. Donc il nous faut être dans cette dynamique d'ajustement de notre pensée par rapport aux défis à entreprendre. Et donc il y a entre ce qui vient de l'intérieur et ce qui va être mobilisé à l'extérieur, la Bible, elle n'est pas simplement sentimentale. La parole de Dieu doit être mise en œuvre. Si tu ne la mets pas en œuvre, tu n'es pas chrétien.
Accueillie et mise en œuvre.
Accueillie, intériorisée, mise en œuvre, et on pourrait dire évaluée, traversée. Voilà. Et la Bible nous donne des critères cumulatif. D'ailleurs, c'est très bien résumé dans un document magnifique à lire de la Commission biblique pontificale, Bible et morale, quels critères pour discerner. Un ouvrage que vous pouvez avoir en ligne sur le site de vatican.va. Et donc, ce document que je résume dans mon livre par différentes fiches, hein, le livre est structuré, toutes les cinq méditations, il y a une fiche un peu technique qui permet de réfléchir sur la manière d'affronter ces défis et de mobiliser nos énergies pour une action qui est bonne. Vous voyez, faire le bien, c'est bien bon et la vie devient bien bonne. Vous voyez, il y a un alignement de l'intérieur à l'extérieur et qui est régénérateur. Et c'est ça que l'on veut mettre en évidence. Il ne s'agit pas de mettre en avant un idéal moral. Il s'agit ni un perfectionnisme moral, mais un perfectionnement de la vie par la qualité des actes que l'on pose. Alors les critères proposés par la Bible pour ajuster notre discernement, c'est d'abord le critère de convergence. La Bible manifeste une ouverture à la morale naturelle dans l'énoncé d'un grand nombre de lois et d'orientations morales. Ça veut dire que dans la culture, il y a des éléments qui vont converger vers le bien ou qui vont diverger. Et donc, en lien avec la loi naturelle qui est inscrite dans le cœur des chrétiens et des non-chrétiens, et ce qui rend possible, après, une capacité raisonnable de dialoguer et d'avancer ensemble, et non pas d'être dans la polarité permanente.
Donc, premier critère, la convergence.
La convergence. Le deuxième critère, c'est l'opposition. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous dit, ça c'est bon et ça c'est pas bon. La Bible prend position de façon très nette pour combattre des contre-valeurs. Voilà. Ça, c'est pas bon. L'euthanasie, c'est pas bon. Point barre. Tu ne tueras pas. Commandement de Dieu. C'est clair, c'est net. Ça ne demande,
pas à discuter.
Ça ne demande aucun compromis. Troisième critère, la progression. La Bible atteste d'un raffinement progressif de la conscience et de la vie sur certains points. D'abord à l'intérieur même de l'Ancien Testament, puis sur la base de l'enseignement de Jésus et sous le choc de l'événement pascal. Oui, il y a une progression. La Bible nous invite à progresser. Et cette progression, elle n'est pas simplement quantitative, elle est d'abord qualitative. Plus on pose des actes de qualité, plus notre vie se qualifie. On comprend,
c'est l'exercice des vertus.
Oui, des vertus vécues en lien avec la structure profonde du désir de l'acte humain et habité de la grâce. Ensuite, il y a la dimension communautaire, hein, donc c'est cette quatrième étape. Notre vocation humaine, c'est une anthropologie communautaire, le cœur de la vision de l'homme chrétienne, ce qu'on appelle le personnalisme communautaire. La personne est digne, elle s'accomplit en créant de la commune unité autour d'elle-même, l'unité. Et on a fêté dimanche la Trinité. La Trinité, c'est très simple, c'est très compliqué, très simple. C'est un en relation. Donc, puisqu'on est créé à l'image de Dieu, on est créé à l'image de la Trinité, on est fait pour créer de l'unité relationnelle autour de nous. Mais la Bible nous éclaire dans cette heureuse dimension. Ensuite, il y a l'élément de la finalité, en fondant l'espérance en l'au-delà sur l'attente d'un règne et sur le mystère pascal, la Bible fournit à l'homme une motivation irremplaçable pour tendre vers la perfection et le perfectionnement. Sous-entendu, l'espérance ne déçoit pas. L'espérance, c'est la substance, c'est le goût de la substance des biens à venir. Vous voyez, d'être toujours dans l'espérance, c'est toujours anticiper le goût des biens à venir. Donc, c'est être dans un devenir et un advenir permanent de soi, poussé de l'intérieur par la parole de Dieu. Et le dernier critère, c'est le critère du discernement. La Bible énonce des principes et donne des exemples qui n'ont pas tous la même valeur, d'où la nécessité d'une approche critique. Le principe nous donne l'axe, et après, en fonction des situations, en fonction des relations, nous allons pouvoir donner une réponse libre. C'est le sens propre de la liberté. La liberté, au sens chrétien, ce n'est pas le libre arbitre poussé au maximum de faire ce qu'on veut, c'est la capacité en permanence de donner une vraie bonne réponse appuyée sur ma capacité de choisir librement. Et donc, Dieu ne se substitue jamais à ma conscience, à ma liberté. Il l'éclaire par des bonnes directions. Et le lieu où les bonnes directions sont données, c'est la parole
de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et justement, dans votre ouvrage, vous dites qu'il n'est pas bon de prendre la parole de Dieu au hasard.
Oui.
Pourquoi ?
Alors, parce que la parole de Dieu, elle est confiée à l'Église, et l'Église nous donne des paroles à manduquer, vous voyez. Et être chrétien, c'est appartenir à un corps, appartenir à un peuple, et une représentation de ce peuple, qui s'appelle, c'est l'Église, et l'Église est l'épouse du Christ, et en tant qu'épouse, en tant que mère, elle veut nous donner le meilleur. Et le choix des textes faits par l'Église pour chaque jour correspond à ce qui est bon pour que nous cheminions chaque jour. Sous-entendu, il ne s'agit pas de prendre Dieu, il ne s'agit pas de prendre la parole, il s'agit de la recevoir. Et le lion, on la reçoit comme un don, c'est qu'on la reçoit de celle qui est épousée par le Christ. Et à ce moment-là, on se met dans une position, la position juste, de se laisser faire, de se laisser faire, avec confiance en celle qui est parfaitement épousée par le Christ, à savoir l'Église, et elle qui a discerné avec le temps, c'est le sens positif de la tradition vivante, elle a choisi une liturgie, des textes, pour nous rendre vivants. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Et la gloire de l'homme, c'est de persévérer dans le service de Dieu. Donc on a à la fois les deux éléments, recevoir la vie et actualiser cette vie par le service, on le comprend, relever les défis du quotidien avec la Bible, en la présence de Dieu.
Oui. Père Tanguy-Marie Pouliquen, vous proposez dans votre livre donc, les textes de chaque dimanche, des trois années liturgiques, suivis d'un bref commentaire, et puis vous donnez aussi un défi pratique pour chacune de ces paroles de Dieu.
Oui, un défi pratique. Donc la structure du livre, c'est des méditations, on peut dire, performatives, un peu punchy, qui veulent montrer comment la parole de Dieu peut nous transformer nous-mêmes et à ce moment-là nous inviter à avoir une action, je dirais, confiante et d'aller au front, hein, de monter sur la scène de l'existence et pas simplement être à l'opéra et faire une clape de fin par des salutations et d'aller au resto. Donc ça, c'est l'image reprise chez Hans-Urs von Balthasar qui nous dit que la vie chrétienne, il faut monter sur la scène et jouer l'histoire du salut.
Participer.
La Bible nous présente l'histoire du salut. Eh ben, le but, c'est que notre vie devienne une histoire de salut, que l'on soit sauvé. Donc la structure de chaque méditation, c'est un titre un petit peu accrocheur. Hein. Oui, tiens, participer à la royauté de Dieu. Ah oui, moi, je peux participer à la royauté de Dieu.
Par exemple, pour dimanche prochain, puisque nous allons célébrer la solennité du Saint-Sacrement.
Alors pour dimanche prochain, on peut faire déjà une petite présentation. C'est le Saint-Sacrement veut nous communiquer la réalité de cette présence de Dieu. Donc le titre, c'est « La qualité de la présence de Dieu », qui est accessible, on peut rentrer, nous. Qualité, la présence de Dieu, c'est de la qualité. On voit bien quand on est amoureux, ce qu'on veut, bon, au début on veut un peu de quantité peut-être, mais après on veut de la qualité, c'est cette présence qui nous qualifie. Voilà. Après on prend une citation des quatre textes qui vont être lus, hein. « Il t'éprouve pour connaître ce qu'il y a dans ton cœur », hein. Après le psaume « Glorifie le Seigneur Jérusalem », l'épître aux Corinthiens, « Tous nous ne participons qu'à cet unique pain », voilà, c'est ce pain qui est le pain de vie, et dans l'évangile de Jean, « Celui qui mangera du pain que voici vivra éternellement ».
Voilà. Donc après, vous donnez un petit commentaire, de ces textes.
Oui, alors je peux le lire. Hein. Alors pour se préparer à dimanche, hein, en cette solennité du Saint-Sacrement, voilà une petite méditation. Celui qui mangera du pain que voici vivra éternellement. Parole scandaleuse ou parole décisive de vie. Le discours sur le pain de vie par lequel le Christ invite à manger sa chair opère un accomplissement spirituel. Mais il n'est pas compris de tous. Beaucoup de disciples quittent Jésus à ce moment-là. Le symbole du pain a une longue histoire. Se souvenir du don de la manne dans le désert, c'est honorer l'alliance de Dieu avec Israël. Dieu éprouve son peuple en le faisant cheminer, en lui apprenant à avoir faim de lui. Il l'éduque en lui faisant découvrir qu'il a besoin d'être pauvre de cœur pour lui être fidèle. Il est important de prendre conscience que la vraie nourriture vient de Dieu, d'abord. Elle est donnée au jour le jour. Même si aujourd'hui faire des réserves dans certains pays est aisé, Dieu nous invite en permanence à faire confiance à sa présence agissante, à sa nourriture céleste, à partager aussi nos biens. Point de riches ni de miséreux en Dieu, seulement des frères et des sœurs qu'une même paternité rassemble et qui offrent des prémices de leur richesse, de leur action de grâce, pour rappeler que tout sort de Dieu et qu'il doit avoir la première place. Primauté donc à la louange qui vient du cœur. La vraie nourriture qu'est le Christ ne donne pas accès seulement à une terre promise, mais à la vie éternelle dès aujourd'hui. Le pain que nous mangeons à chaque Eucharistie est la chair du Seigneur, chair transfigurée par sa mort et sa résurrection, chair de son offrande. Elle nous insère dans un autre espace-temps, l'éternité au présent. L'adorer dans le très saint sacrement de l'autel pour finalement le recevoir amoureusement confirme notre pauvreté spirituelle. Nous avons besoin de lui pour accueillir maintenant le cadeau de sa présence vivifiante. C'est lui, in fine, qui nous mange en nous transformant. Il nous incorpore à son unique corps céleste pour partager avec lui son éternité de gloire, mystère de la qualité de sa présence.
Et puis vous donnez aussi un défi, hein, pour entrer dans ce dimanche du Saint-Sacrement.
Oui, alors juste avant le défi, il y a une sorte de citation d'un grand auteur. Hein. Oui. Ici, c'est le bienheureux Columba Marmion. « Si l'âme est humble et attentive, la parole divine y fait son œuvre silencieuse mais féconde. » Tout le climat de la lecture amoureuse de la parole. Et là, je relis. « Si l'âme est humble, c'est-à-dire qu'elle reçoit dans son cœur pauvrement chaque jour la parole et qu'elle est attentive, la parole divine y fait son œuvre silencieuse mais féconde, comme une pluie fine dans un bon jardin, bien cultivé, bien ensemencé. » Alors le défi...
Oui, en fait, il découle finalement de cette citation.
Voilà, on voit bien l'action... Elle est le prolongement d'un travail intérieur. La terre a été labourée, maintenant ça peut pousser, ça peut gagner. Voilà. Je prends un long temps de silence avant la messe de dimanche prochain.
Donc il faut arriver en avance là.
Pour me préparer à recevoir Dieu dans l'Eucharistie. Oui, cette idée de se préparer à la messe, se préparer par la prière et se préparer par la lecture.
La lecture des textes.
La messe. Il y a un mouvement qui fait que toute la semaine, je relis les textes du dimanche et de jour en jour, je me prépare. Et à ce moment-là, ben, la messe, la parole célébrée ensemble, reçue, sera beaucoup plus féconde et les homélies seront plus accueilli avec pertinence.
Merci beaucoup, Père Tanguy et Marie Pouliquen. Je rappelle le titre de votre livre, Avancer dans la vie, relever les défis du quotidien avec la Bible. C'est aux éditions Saint-Léger. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie.
Au revoir.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.